France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Alors que vient de paraître dans la collection Quarto chez Gallimard, les contes de Karen Blixen. Les 7 contes gothiques, bien sûr, les contes divers aussi, anecdotes du destin. Il est temps de nous replonger dans la vie et l'œuvre de Karen Blixen. Karen Blixen, une âme en quête de grandeur. Une âme plus qu'un corps. Corps que Karen Blixen avait tellement amaigri par des jeûnes perpétuels. Karen Blixen, auteur entre autres et pourtant du Festin de Babette. Rediffusion d'une émission proposée pour la première fois sur France Culture le 4 février 1993.
Jeg sagde i New York i vinter, da de havde bedt mig om at holde foredrag, eller om at læse op. Og det kunne jeg ikke. Jeg kan ikke holde foredrag, og jeg vil ikke så gerne læse op, for jeg synes, at hvad der er skrevet, det skal læses med øjet. Jeg sagde til dem derovre, jeg er ikke hverken foredragsholder eller oplæser. Jeg er måske en af de sidste, af en ældgammel, ørkesløs kvinde, umyndig stamme.
Karen Blixen, 1885-1962, conteuse danoise, une âme en quête de grandeur.
Je trouve que Blixen, qui est donc morte en 62, qui a écrit tous ses contes donc dans les années 50, donc milieu de ce siècle, elle est très en avance sur un mouvement que l'on voit se dessiner maintenant, qui est une espèce de retour à la spiritualité. On voit que ce siècle c'est le siècle de la science, des progrès foudroyants de la science, et elle, très tôt dans le siècle et à la faveur de ses nouvelles, elle a essayé de tenir très haut la flamme de la spiritualité et elle a ouvert la voie à travers ses contes bibliques, un peu diaboliques quelquefois, il faut bien le dire, mais à travers ses contes qui sont d'une haute tenue spirituelle.
Uwe Henriksen, dans un de ses essais, l'appelle un événement de la littérature européenne. Et il la place au même niveau que Goethe, que Ibsen, Sophus Clausen et Nietzsche. Et c'est un peu difficile de comprendre ce qu'il veut dire par là, mais j'ai l'impression que ce qu'il veut dire, c'est que tout ce qui a été autour, dans le sillage de ce qu'on appelle la modernité, ont tous, d'une certaine façon, ont patiné dans les paradis plus ou moins artificiels qui tout d'un coup s'ouvraient. Tandis que Ibsen, Nietzsche, Karen Blixen ont fait cela tout en voulant sauvegarder une continuité. Aller lire, c'est vrai qu'on est introduit dans des drôles de paysages mentaux, et c'est vrai qu'on ne peut pas le reprocher à Freud ou à d'autres, parce que ça ne ressemble pas à des névroses ou autre chose, mais on est quand même à un niveau qui est assez proche. Une bonne partie de ce qui se passe dans les récits de Karen Blixen se passe au niveau préconscient, si je puis dire. Comme si la question est posée, quand est-ce qu'un être humain décide quelque chose, décide ce qu'il veut? Est-ce que c'est lui qui décide? Est-ce qu'il est décidé par lui?
Elle m'évoquait une épée.
Marcel Schneider.
Car elle était tranchante, très pâle, les yeux très fardée, même charbonnée, si vous voulez. Et elle portait le plus souvent, quand ça n'était pas des turbans, c'était des chapeaux avec de grands bords. Et dans cette demi-pénombre, il y avait ce regard qui était intense et qui pouvait être à la fois velouté, cruel, étrange en tout cas, et où on sentait chez elle une grande volonté de séduire et en même temps d'être un personnage mythique. Elle avait une conversation extrêmement brillante, extrêmement amusante. Elle prenait la conversation et puis, comme elle mangeait très peu, elle parlait une heure, comme ça. Elle parlait tantôt en français, tantôt en anglais. Elle tenait son rôle. Elle avait conscience d'être une émanation du mirage nordique, dans une robe moulante, presque noire, si j'ai bonne mémoire. Ce grand chapeau, ce regard, c'est ça, n'est-ce pas? Son regard était magnétique.
La nouvelle, d'où est tiré le superbe film de Gabriel Axel, la nouvelle s'appelle Le dîner de Babette.
Micheline Lalou.
Et cette nouvelle a été écrite dans les années 47-48 par Karen Blixen, au moment où elle avait besoin d'argent. Et elle a été sollicitée par une revue américaine, le Lady Home Journal, qui souhaitait, pour sa rubrique gastronomique, souhaitait présenter une nouvelle. Alors elle a écrit cette nouvelle extraordinaire, qui est un hymne à la gastronomie française, mais qui est en même temps beaucoup plus que cela, et qui a été en fait publiée dans ce journal en 1950. La nouvelle tourne autour d'une cuisinière de génie qui s'appelle Babette, qui est une ex-communarde que le destin, il faut parler du destin quand on parle de Blixen, que le destin a conduit dans un petit village de Norvège, lové au fin fond d'un fjord. Et cette femme, un jour de tempête, va demander asile à deux dames d'œuvre qui vivent dans ce village de Berlewag. Elle arrive, cette Babette, avec une lettre de recommandation écrite par un Français, un ex-chanteur qui s'appelle Achille Papin.
Vous souvenez-vous de moi? Ah, quand je pense à vous, il me vient le parfum des muguets sauvages. Le souvenir d'un Français qui vous est dévoué jusqu'à la mort pourra-t-il émouvoir vos cœurs suffisamment pour sauver la vie d'une femme française? L'infortunée porteuse de cette lettre, Madame Babette Hersant, de même que ma divine impératrice, a dû s'enfuir de Paris.
Son neveu Pierre est cuisinier à bord de l'Anna Kambiansen qui fait route vers Frederikshavn. Il a obtenu pour sa tante l'occasion de partir à bord de ce bateau.
Elle est venue me trouver pour me demander si je connaissais au Danemark des personnes généreuses.
J'ai aussitôt évoqué le souvenir de vous que je garde précieusement.
Babette sait faire la cuisine.
Recevez, mesdames, les hommages respectueux d'un ami qui fut un jour Achille Papin.
Ces deux dames sont de saintes femmes, puisqu'elles dirigent, elles poursuivent plutôt l'apostolat qui avait été mis en place par leur père, un pasteur de très haut niveau. Et quelques 15 ans en arrière, avant donc l'arrivée de Babette dans ce village, ce pasteur donc animait et dirigeait tout un groupe de paroissiens, aidé de ses deux filles, Martine et Philippa, deux filles ravissantes qui, en fait, étaient destinées à continuer l'œuvre du père. Donc un jour, Babette arrive avec une lettre signée Achille Papin chez ces dames qui ont pris de l'âge, elles ont 15 ans de plus, 20 ans de plus. Et Babette est une véritable héroïne blixénienne. Elle arrive en victime et elle ne se révolte pas jamais. Elle ne pleure pas, elle serre les dents, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Enfin, petit à petit, elle devient la reine du village. Peut-être 10 ans plus tard, 10 ans après son installation là-bas, elle reçoit une lettre de Paris avec un billet de loterie gagnant. Elle a gagné 10 000 francs or, ce qui est une somme considérable. Et avec cet argent, elle va solliciter une faveur auprès de ces dames. Les dames doivent organiser un repas parce que ce serait l'anniversaire, les 100 ans du pasteur qui est mort, il y a belle lurette. Mais tout de même, en souvenir de lui, on veut organiser, disons, une tasse de café avec quelques gâteaux, c'est bien tout. Et Babette propose, elle, d'organiser un vrai dîner français. Et un jour, elle voit arriver dans le petit port de Berlewagh des caisses mystérieuses avec des liquides rouges et puis une caisse avec une tête bizarre qui sort du couvercle. Et les dames, qui sont un peu facilement affolées, s'imaginent que Babette est une sorcière. Au fond, Babette, on ne la connaît pas. Et elle va peut-être nous organiser un sabbat de sorcière. Et le repas a lieu avec la présence donc de ce fameux général Lawrence Lovenhelm. C'est aussi un héros blixénien. Lui, on peut dire qu'il y a deux héros dans ce conte. Il y a Babette et puis il y a le général. Et le dîner commence. Lorsqu'il arrive, il est déjà étonné parce qu'il y a une table magnifiquement dressée avec des cristaux, une nappe de dentelle, des assiettes de porcelaine. Et voilà que on commence à lui servir, comme on sert à tous les autres convives, un vin qu'il est le seul à reconnaître. Et successivement, il a l'impression que cette soupe verte-là qu'on vient de lui servir, c'est de la soupe de tortue. Mais oui, c'est de la soupe de tortue. Et puis, après cette soupe, ce sont des blinis à la demi-d'off. Oui, c'est cela. Et après, des cailles en sarcophage. Pendant tout le repas, on lui sert du vin, on lui sert du champagne. Il a l'impression que quelque chose est en train de se passer. Quant aux autres convives, inconsciemment, ils se régalent. On les voit qui commencent à sourire, ils commencent à se détendre. On a l'impression que tous ces gens-là deviennent meilleurs. Tous ces vieux paroissiens qui n'arrêtaient pas de se chipoter, qui n'arrêtaient pas de se quereller, qui s'envoyaient des injures à la tête, qui faisaient ressurgir de vieilles querelles, subitement se disent des douceurs, se calment, font la paix les uns avec les autres. Et dans cette ambiance un peu folle, à la fin du repas, le général se lève.
Barmhärtighet och sannhet mötas. Rättvisa och fröjd ska kyssa varandra. Människan tror i sin svaghet och sin kortsynthet att hon måste göra sitt val här i livet. Och fruktar den risk hon därvid löper. Vi känner
fruktan. Et il commence à faire ce discours qu'il n'avait jamais pu faire lorsqu'il était jeune et qu'il participait à ces réunions de prière, subitement sa langue s'est déliée. Il parle de clémence, de justice, de grâce, et il dit que la grâce du Seigneur est immense, et que nous sommes riches de ce que nous donnons. Il dit des choses comme cela. D'ailleurs, il enfile les mots après les mots, personne ne comprend exactement ce qu'il veut dire, mais tout le monde est un petit peu dans un état second, si vous voulez, mais au meilleur sens du terme.
Och se allt som vi har valt blev oss givet. Allt vi har avstått från.
Et lorsque le repas s'achève dans cette ambiance euphorique, lorsque tous les paroissiens quittent la maison, ils sont si heureux qu'eux, des vieilles personnes, ils se prennent la main et ils se mettent à danser en chantant « Alléluia, la neige ». Je dois dire que le repas se déroule un 15 décembre, la neige tombe. Et ils sont là à chanter autour de la fontaine. Ils sont au paradis. Quant au général, il serre la main de Martine, Martine auquel il n'avait jamais pu déclarer sa flamme. Et il lui dit, et cela fait écho à ce qu'il avait essayé de lui dire lors de cette minute de séparation, il y a 20 ans de cela, il lui dit, « Martine, après ce repas extraordinaire, je constate que dans ce monde, tout est possible. Autrefois, il avait dit « il y a des choses impossibles ». Et maintenant, il dit « je crois que dans ce monde, tout est possible ». Et Babette, dans tout cela, Babette a été la magicienne qui a concocté ce repas, qui a tout donné. Et elle dit « mesdames, l'artiste donne tout, l'artiste s'investit totalement ». L'artiste a fait alliance avec le Seigneur et il transmet aux autres ce que Dieu lui a transmis. Ça, c'est une des pivots, hein, des axes de la pensée blixénienne. Le rôle de l'art dans la vie, l'importance de l'artiste. Et on peut dire que sur la planète blixénienne, les prêtres et les artistes sont sur le même plan. J'allais même dire que les artistes sont au-dessus des prêtres. Ce sont des personnes qui sont capables de soulever le mystère de cette vie et qui sont en rapport avec Dieu.
Gud velsigne dig, lille Solvej.
Gud velsigne dig, lille Anna.
Gud
velsigne dig,
Christophe. Il reste d'elle une narratrice, une conteuse de premier ordre, qui s'inscrit exactement dans la ligne des grands écrivains scandinaves qui sont, depuis qu'on les connaît, depuis toujours, on peut dire, faut remonter aux sagas islandaises, des narrateurs de premier ordre.
Régis Boyer.
Elle est à la fois dans le droit fil de ces gens qui racontent, et puis elle appartient à l'entre-deux-guerres, n'est-ce pas ? Il y a eu à partir de 1870, en Scandinavie, sous l'impulsion d'un autre Danois qui s'appelle Georg Brandes, il y a eu une espèce de soudain démarrage de la littérature scandinave, qui au Danemark a donné des talents comme Jacobsen, qui a en quelque sorte libéré l'inspiration scandinave, d'un certain nombre de tabous, d'un certain nombre d'inhibitions qui remontaient à un très lointain passé, peut-être à un certain type de protestantisme, est-ce que je sais. À partir de 1870, brusquement, les littératures scandinaves se sont, on peut dire, émancipées. Alors il y a eu une intense production dans tous les domaines, théâtral, et là du côté danois, il y a des gens comme Kai Munk, ou Kjeld Abel, ou Soya, qui sont des gens très connus, malgré tout. Vous avez vu le film Ordette, par exemple, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre de Kai Munk. Il y a eu de très grands poètes, alors là, ils sont moins connus en France, pour des raisons qui vont de soi. Et il y a eu une grande lignée de prosateurs de premier ordre, dont deux, d'ailleurs, ont obtenu le prix Nobel, mais ils sont passés parfaitement inaperçus. Ils s'appellent Ponto Pidan et Gjelle Roop. Et elle se situe, elle, dans le droit fil de ces grands prosateurs qui ont essayé de rendre sensibles les pulsions inconscientes de la créature humaine. Derrière des activités de tous les jours, elle a essayé de faire sentir dans ses contes gothiques, dans ses contes du destin, dans ses contes divers. Et là, elle se situe dans une tradition extrêmement lointaine. Il faut se reporter au XIIe, XIIIe siècle pour trouver les racines de ça. De faire sentir que nous sommes menés par des puissances, comme ils disent là-bas, Mark Tanna, par des forces dont nous ne sommes que les traducteurs fidèles et inconscients. Ce qu'elle aurait à part, c'est cette espèce de finesse d'écriture. Écriture très féminine, très, très attentive aux nuances les plus délicates et quasi indicibles. Le danois se prête assez bien à ça, parce que c'est une langue un peu floue quant au vocabulaire. Alors elle joue là-dessus, elle est très attentive au démoniaque, il faudrait dire, au sens grec de l'adjectif, qui mène au comportement. Alors, on peut trouver ça original dans l'ensemble de la production danoise, mais c'est plutôt la femme écrivain qui est originale, plutôt que l'écrivain en soi, si vous voulez. Mmh. Il y a une grande tradition conteuse au Danemark qui est parfaitement illustrée entre les deux guerres et qui continue à l'heure actuelle, d'ailleurs, sans se démentir. Elle est à la pointe de ce mouvement-là, mais on ne peut pas dire, du moins à mon avis, bien sûr, qu'elle représente une originalité carrée. L'écrivain est un écrivain admirable, racé, un écrivain quasi classique, d'ailleurs, quant à l'écriture. L'environnement était favorable. Il y a une tradition conteuse, puisque je tourne autour de ce mot, dans sa famille, et les récits de chasse de son père, en effet, à la fois sont très bien écrits et prête une attention extrêmement vive aux forces sous-jacentes, aux forces inconscientes qui nous mènent. Autrement dit, il y a une sorte de mausolée intime dans le cœur de cette femme-là, vis-à-vis de son père, et qui aura duré toute sa vie.
C'est une femme de notre temps, puisqu'elle est née en 1885, elle est morte en 1962. Elle est née dans une famille aristocratique danoise, d'un père aristocrate, d'une mère de la très haute bourgeoisie. Et on peut dire que le fait le plus important de son enfance qui l'ait marqué, c'est le suicide d'un père lorsqu'elle avait 10 ans. La famille d'Innocen, puisqu'elle s'appelait Karen d'Innocen, la famille d'Innocen était composée de 5 enfants et on peut dire que c'est elle qui a été le plus frappée par la mort de ce père, un père dont elle était la favorite et avec lequel elle se promenait dans les jardins de la maison familiale, de la maison de Rouxtenlund, aux environs de Copenhague. Et ce père était quelqu'un de très étrange. Ce n'était pas un père classique. C'était un père qui, au cours de sa jeunesse un peu piaffante, avait fait beaucoup de choses. D'abord, il s'était battu sur les barricades à la Commune.
À Paris.
À Paris, c'est cela. Et puis, il était parti très vite dans le Midwest américain, où il avait été tour à tour ermite, membre d'une communauté d'Indiens réputés primitifs. Et il n'avait pas besoin d'ouvrir des livres de contes pour intéresser sa petite fille. Il lui suffisait de plonger dans ses souvenirs. D'autant plus qu'il était lui-même écrivain. Il avait déjà été remarqué par le Sainte-Beuve de l'époque, qui s'appelait Georg Brandes, le critique danois le plus réputé de l'époque, pour un livre qui s'appelait « Récit d'un chasseur ». Et je crois que Georg Brandes l'avait même comparé à Tourgueniev, ce qui est tout de même une allusion assez flatteuse. Donc ce père meurt, se suicide parce qu'il se sait atteint de syphilis et il laisse une petite fille vraiment désemparée, d'autant plus désemparée qu'elle entend dans la famille maternelle des critiques à l'égard de ce père qui n'a pas eu le courage de vivre. Et la chose est très pénible pour elle. Une deuxième chose, je parlais du père, je vais parler de cette mère qui va donc rester veuve avec 5 enfants. Elle est la seconde de la famille. Elle a encore un petit frère en bas âge lorsque le père disparaît. Et cette mère est donc d'une famille de la haute bourgeoisie et c'est surtout une protestante convaincue. Elle appartient à la tendance dite unitarienne et on ne badine pas avec la religion dans cette famille-là. On lit la Bible tous les jours, on a un sens très aigu de la morale et dans l'éducation de ses 5 enfants, Madame d'Innocen est aidée par sa mère qui est également extrêmement rigoriste, sinon plus que sa fille, Marie Westenholz. Cette mère aura une importance capitale dans la vie de Blixen, en ce sens qu'elle lui inculquera la Bible et, livrée à elle-même, sans ce père qu'elle adorait, elle va laisser libre cours à son imagination. Elle est passionnée de littérature, passionnée de lecture, et elle va écrire des petites pièces de théâtre, des petites scénettes qu'elle va jouer en famille et qui sont déjà extrêmement remarquables. On peut dire que très tôt, ce talent s'est révélé. Elle n'avait que 14 ou 15 ans. Et lorsqu'on dit qu'elle est rentrée en littérature à 50 ans, ce qui est vrai, elle est rentrée d'Afrique en 31 et en 34, elle va sortir ce livre qui va lui donner une réputation internationale qui s'appelle Gothic Tales, les contes gothiques. Eh bien, effectivement, elle est rentrée en littérature à 50 ans, mais très jeune, elle avait déjà écrit des nouvelles et des contes exceptionnels. Et jeune fille, elle écrira des nouvelles à 20-22 ans qui sont aussi remarquables que celles qu'elle produira dans son âge mûr. Je dois dire que ça a été une surprise pour moi de constater, lorsque Gallimard a sorti ce livre de nouvelles publié à titre posthume, qui a pour titre « Les fils de roi », de découvrir que certaines nouvelles, comme « Le laboureur », comme « L'ours et le baiser », comme « Les solitaires », ce sont des nouvelles d'une perfection qui valent certainement le dîner de Babette, qui est le conte phare de Karen Blixen. Et ces contes-là, elle les a écrits donc 20 ans, 22 ans à peu près. Il se pencha, prit l'ourlet de sa robe et le baisa. « Mon Dieu, dit-il, c'est terminé. » Elle était incapable de dire un mot. « La guérison est à trouver dans la terre, dit-il. La guérison est à trouver dans la terre. C'est un miracle, je suis guéri. C'est terminé. Tout est terminé. » Il resta longtemps ainsi, muet, vivement ému. Puis il dit « La terre m'a parlé, c'est un miracle. J'ai entendu sa voix. » C'est terminé. Elle m'a pris mes peines, mes crimes, ma folie et m'a donné la paix. Comme elle est puissante, sa miséricorde ne connaît pas de bornes. J'ai déposé ma peine sur elle et elle l'a acceptée, elle la porte. J'ai enfoui ma peine en elle et elle m'a donné la paix. Je suis son enfant. Oh, c'est terminé, c'est terminé. Je suis libéré. Il resta à nouveau silencieux pendant un moment, le souffle court. J'ai revu toute ma vie, dit-il. La façon dont j'ai couru après des feux follets. Mais je viens également d'avoir le spectacle d'une grandeur que je n'aurais pas cru possible. La terre m'a parlé. Pas un seul jour n'est perdu, aucune souffrance, aucun revers, aucune erreur, aucune année de peine, le malheur n'existe pas. « T'en vas-tu maintenant ?» demanda-t-elle. Il se baissa et détela les chevaux de la charrue. « Oui, dit-il, je rentre chez moi, ma maison m'attend là-bas, tout le reste est terminé, désormais. » J'ai entendu la voix de ma mère aujourd'hui, c'est terminé. Des jours heureux m'attendent. Ceux qui ont l'esprit de justice seront satisfaits sous mon toit, et où que je sois, ma main protégera les faibles et les offensés. La froideur, la colère, l'amertume, la haine et l'orgueil seront bannis de ma présence. » Il parlait lentement et se tut à nouveau. « Écoute, Léa, reprit-il, c'était à ma mère que je devais le dire, mais écoute-moi. Que l'heure qui m'a vu naître soit bénie et non pas maudite. Pardonne-moi de l'avoir maudite, je la bénis aujourd'hui. Il était bon que je naisse, bon que je grandisse, bon que je vive toutes ces années jusqu'à ce jour. » « Oui, dit Léa. Au revoir, Léa, dit-il en la quittant. Elle resta dans le noir après son départ, comme portée par une puissante houle, et malgré cela, très calme. Le laboureur, les fils de rois et autres contes.
Elle est douée de toute manière. Très jeune, elle aurait pu se lancer dans la carrière littéraire, mais les jeunes filles de cette époque-là ne travaillaient pas. Et elle était également très douée pour le dessin. Et quand elle sera en Afrique, elle fera au fusain les portraits de ses serviteurs, de ses amis, enfin, même surtout des Africains qui l'entouraient. Et elle a appris effectivement à l'Académie de dessin à Paris et elle a laissé de très beaux dessins. Elle a mené la vie des jeunes filles, jeunes aristocrates de son milieu et très tôt, elle a eu conscience de ses talents. Ce n'était pas une modeste. Elle savait qu'elle avait un talent littéraire très fortement affirmé. Et elle ne s'est pas mariée jeune. Elle s'est mariée lorsqu'elle avait 29 ans, après avoir voyagé. Et elle est tombée amoureuse d'un garçon qui s'appelait Hans Gustav, un vague cousin d'origine suédoise. Et ce cousin avait un jumeau qui s'appelait Bror. Et Hans Gustav n'était pas amoureux de Karen Blixen. Et elle a opté pour le jumeau parce que, il faut bien le dire, elle voulait tout de même faire une fin. Et pour une jeune fille
Danemark, qui était dans cette espèce de prison dorée que constituait cette société aristocratique, le seul moyen d'en sortir, c'était de se marier. Surtout qu'elle s'était mise en tête qu'elle voulait absolument quitter le Danemark ou la Scandinavie au sens large du terme, et qu'elle voulait voyager, qu'elle voulait vivre une vie d'aventure. Lorsqu'elle a rencontré donc Bror, et alors qu'elle avait l'inclinaison pour Hans Gustav, elle lui a dit qu'elle acceptait de l'épouser, mais que de toute manière, elle ne s'installerait jamais en Scanie, là où se trouvait le domaine de la famille Blixen, le domaine agricole. Elle désirait partir au loin. On a parlé de la Malaisie, et puis en définitive, la famille Westenholz, qui était très riche, qui est donc la famille maternelle de Karen Blixen, a débloquer les capitaux nécessaires pour l'achat d'une ferme au Kenya, et c'est Bror qui est parti un peu en avance pour conclure l'affaire.
J'ai possédé une ferme en Afrique, au pied du Knoong. La ligne de l'équateur passait dans les montagnes à 25 000 au nord, mais nous étions à 2000 mètres d'altitude. Au milieu de la journée, nous avions l'impression d'être tout près du soleil, alors que les après-midi et les soirées étaient frais et les nuits froides. L'altitude combinée au climat équatorial composait un paysage sans pareil. Paysage dépouillé, aux lignes allongées et pures, l'exubérance de couleurs et de végétation qui caractérise la plaine tropicale en étant absente, ce paysage avait la teinte sèche et brûlée de certaines poteries. Le feuillage léger des arbres, au lieu de former un dôme comme en Europe, s'étageait en couches horizontales et paraboliques. Cette structure particulière donnait aux arbres isolés tantôt la silhouette de grands phénix, aux palmes mouvantes, tantôt l'attitude fière et héroïque d'un trois-mâts, les voiles carguées. À la lisière du bois, un frémissement étrange semblait courir et gagner toute la forêt. Quelques aubépines, vieilles et rabougries, surgissaient de place en place dans la plaine, comme l'herbe sentait le thym et le piment. L'odeur en était parfois si forte qu'elle prenait aux narines. Les fleurs des prés, les lianes de la forêt, étaient en général minuscules comme celles des plantes grasses qui fixent les dunes. Mais pourtant, au début de la saison des pluies, on voyait fleurir différentes variétés de grands lys odorants. Il y en avait à perte de vue, libres et fiers comme la nature de ce pays. L'air est l'élément essentiel de la vie et du paysage africain. Quand on fait un retour en arrière après un séjour de plusieurs années dans les hautes terres d'Afrique, on a l'impression curieuse que la vie s'y écoulait en l'air. Le ciel n'était jamais très bleu, il restait pâle, mais si lumineux que les yeux le fixaient avec peine, des nuages légers échangeant le traverser. Je voyais des palais se construire à l'horizon, les nuages s'en détachaient et voguaient dans l'espace. Ce ciel avait pourtant des trésors de bleu qu'il répandait à profusion sur les hauteurs les plus proches. En plein midi, l'air devenait vivant, il brûlait et éclaboussait comme une flamme mouvante, une flamme liquide comme l'eau, réfléchissant et multipliant les objets en incessants mirages. À cette altitude, il nous enivrait et nous donnait des ailes. On se réveillait dans nos montagnes avec le sentiment d'avoir enfin trouvé son élément.
Ce qu'elle dit quand elle parle de la nature, quand elle parle des animaux, des indigènes, c'est surtout pour dire que eux, eux n'ont pas subi la chute, pour ainsi dire, enfin la chute au sens chrétien du terme. Eux sont des marionnettes dans ce sens-là, qu'ils font et réalisent l'idée qu'avait Dieu avec eux. C'est pour ça qu'ils sont fiers, ils sont sûrs d'eux. Tandis que nous autres, nous avons notre point de gravitation autour de nous. Nous sommes déstabilisés. Ce point se trouve dans la tête et non pas au centre, comme des animaux. Et c'est dans ce sens-là qu'elle emploie le terme noble. Ce sont des êtres nobles et surtout ce sont des êtres libres.
L'Africaine que je suis ne peut être qu'embarrassée et gênée par son attitude un peu paternaliste.
Jacqueline Rumeger-Eberhardt.
Il y a une ambiguïté dans son approche. D'une part, une attirance très réelle, et par ailleurs, ce paternalisme par lequel elle parle toujours de mes kikuyu, mes noirs, ça ne peut que choquer la sensibilité africaine. Les Maasai se dessinent plutôt comme des ombres en contre-jour dans son récit, ombres qu'on admire et qu'on craint, comme c'est le cas pour la plupart des autres populations voisines, car il n'est pas facile d'apprivoiser un guerrier Maasai. Dans la mythologie Maasai, il y a place pour la femme guerrière. Et quand l'homme guerrier tombe dans le désordre, c'est la femme qui normalement représente le désordre qui devient ordre et assume ce rôle de guerrière, la pongolo. Alors, on pouvait la comprendre précisément comme étant une pongolo. Celle qui se soustrait aux règles de d'abord conjugales habituelles pour la femme, qui joue un rôle très actif et qui peut assumer quand on vient aussi. Alors, elle parle aussi des guerriers Maasai qui viennent l'appeler pour tuer des lions qui sont en train de tuer leur bétail. Alors, normalement, eux-mêmes vont en guerre, si vous voulez, contre le lion qui tue le bétail, mais c'était interdit. Et donc, ils ont trouvé cette solution intermédiaire d'aller faire appel, car pour eux, on était entré dans le monde du désordre pour les hommes, puisqu'on interdisait aux guerriers d'aller tuer les lions, comme c'est le cas encore maintenant. Et donc, on faisait ce qui est naturel dans le système Maasai, c'est s'adresser à la femme guerrière, qui, elle, devient ordre dans ce désordre qu'avait semé le colonialisme. Mais elle vivait sa vie de chapelaine, qui considérait les personnes qui travaillaient avec bienveillance, mais une certaine condescendance quand même. Et toujours ce côté paternaliste. Et je ne pense pas qu'elle ait poussé très loin son désir de comprendre. Par ailleurs, elle a une intuition très juste sur beaucoup de choses. Et donc, il lui venait des flashs de compréhension. De là aussi la beauté de son écriture, car on ne peut pas nier que c'est un livre qui vous emmène, qui vous emporte, qu'on n'a pas envie de lâcher, qu'on suit avec elle, malgré toutes mes résistances. Je l'ai lu avec plaisir. Elle innovait. Elle était différente par son indépendance, par le fait de femme seule assumant ce grand destin, de sa possibilité de quand même faire fi des conventions et de l'opinion des autres. Mais en ce qui concernait une compréhension très profonde de ses voisins africains, je pense qu'elle n'est pas allée très loin, mais qu'elle était très bienveillante, elle avait beaucoup de sympathie et d'admiration pour eux. Je pense que vraiment, elle a vécu une réalité africaine, une certaine réalité africaine, et qu'il ne s'agissait pas d'une dimension uniquement mythique, mais quelque chose qui correspond à une réalité.
Elle a eu le coup de foudre pour ce pays qu'elle ne connaissait pas, pour ces indigènes qui étaient des poètes à l'état pur. Elle est arrivée là-bas, elle s'est mariée à Mombasa, elle est arrivée dans sa ferme. Et cette femme qui était le prototype de l'européenne cultivée, l'intellectuelle, si vous voulez, l'écrivain, on peut bien le dire, eh bien, cette femme a eu le coup de foudre pour ces indigènes, pour ces Kikuyu, puisque c'était l'ethnie Kikuyu qui était la plus importante. Et elle a été conquise par la simplicité de ces gens et leur sens poétique à l'état pur. Pour eux, la nature était peuplée de symboles. Et elle a eu l'espèce de contact immédiat avec eux. Et ce n'était pas le contact d'une femme supérieure qui s'abaissait vis-à-vis de gens réputés inférieurs. Pas du tout. Elle était de plein pied avec eux. Elle les admirait beaucoup. Et on peut dire qu'elle les a aimés d'amour, tous ces Africains. Et elle a essayé de s'initier à la culture des caféiers, car on faisait du café sur ces hauts plateaux, ce qui n'était d'ailleurs pas tellement bon, car le café n'a jamais vraiment prospéré là. Et cette ferme qu'elle va être appelée à diriger, car l'année 14 est tout de même une année un peu particulière, puisque la guerre a éclaté en août, et comme beaucoup d'Anglais et puis d'étrangers, lui était suédois, et vous savez que le Tanganyika jouxtait le Kenya, et le Tanganyika était allemand, et Brohr va s'engager, il va donc quitter la ferme, elle va donc prendre en main la direction de cette ferme qui, je le rappelle, était composée de 700 familles Kikuyu, plus un certain nombre de familles somalies, plus quelques Indiens, enfin. Et elle se retrouve seule avec un mari donc qui revient de moins en moins. Il préfère aller en territoire Maasai, chez ces Maasai qui sont des nomades. Et les femmes Maasai sont très belles, sont ces femmes avec ces grands coups. Et le mari est très attiré par ces femmes Maasai. Et grâce à ses détours dans ce territoire, il va ramener chez lui et à sa femme, sa propre femme, il va ramener la syphilis, qui est tout de même un cadeau empoisonné, car cette maladie va la suivre toute sa vie. Et c'est un des grands faits marquants de ce parcours, car on peut dire que l'œuvre qu'elle écrira plus tard, elle l'arrachera à un lot de souffrances physiques et morales extraordinaires. Worth, c'était un bon gestionnaire, c'était quelqu'un qui savait diriger un domaine agricole, mais je veux dire, elle n'avait aucun échange intellectuel d'aucune sorte. Il ne partageait pas ses goûts, ses intérêts pour la littérature, pour la musique moderne. Enfin, il était très très loin d'elle. Et Karen Blixen n'était pas quelqu'un de facile à vivre.
La ferme africaine. Cela va si bien à Denis de voler. J'ai toujours pensé qu'il y avait en lui tant de choses aériennes et qu'il était une sorte d'Ariel. Mais on trouve toujours une bonne part d'absence de cœur dans de tels caractères. Et Ariel était en fait sans cœur, comme on le voit si on relit La Tempête. Mais si pur, en comparaison des êtres terre à terre qui peuplent l'île. Clair, honnête, sans réserve, transparent, en un mot, semblable à l'air. Je crois aussi que ce que j'ai le plus aimé chez Denis dès le début, c'était ceci: il se déplaçait, spirituellement parlant, dans les trois dimensions.
Elle a trouvé l'âme sœur, certainement, en ce Denis Finchaton qu'elle a rencontré, effectivement, par l'intermédiaire de son mari, qui était quelqu'un d'un peu particulier. C'était un aristocrate écossais qui ne pouvait pas se souffrir, si vous voulez, en territoire britannique. C'était quelqu'un qui aimait la liberté, qui aimait les grands espaces, qui était extrêmement doué dans beaucoup de domaines, qu'il s'agisse du domaine technique, du domaine artistique. Donc il est parti au Kenya, où il était à la fois directeur de safari, il était également négociant en bois précieux. Il a fait beaucoup de choses, et puis il a bricolé lui-même un petit avion, qu'il pilotait, enfin c'est tout de même les débuts de l'aviation, il avait un avion personnel, et l'idylle, disons l'histoire d'amour qu'il a eue avec Blixen était une histoire à épisodes. Il apparaissait à la ferme, il disparaissait, et pendant les courts moments où il était là, c'était des moments intenses, car c'était quelqu'un d'hyper cultivé, au moins aussi cultivé qu'elle, qui connaissait le latin, le grec, qui connaissait la Bible sur le bout du doigt, et l'on peut dire que entre elle et lui, il y a eu des échanges extrêmement intenses. Il faut remercier Finchaton d'avoir poussé Karen Blixen à reprendre l'écriture. Elle était prise par la gestion de cette ferme. Elle se donnait corps et âme à ces indigènes. On peut dire qu'elle est entrée dans cette ferme comme on entre en religion. Elle s'y investissait totalement. Et grâce à lui, elle a repris goût à l'écriture. Il l'a incité à reprendre l'écriture. Et lorsqu'il revenait sur la terrasse de Macbogany, elle lui racontait des histoires merveilleuses qu'elle inventait. Et Vous savez que le premier livre qu'elle a écrit s'appelle Les Gothic Tales, et je crois qu'en fait, ce livre qu'elle a écrit dès son retour là-bas, grâce à des notes qu'elle a emportées d'Afrique, ce livre, elle l'avait conçu avec son ami Finchaton. C'était une sorte de livre à deux voix, et on a l'impression qu'ils en rajoutent, si vous voulez. Elle dit une chose, il en dit une autre. Enfin, alors c'est une espèce d'escalade dans l'érudition, qu'il s'agisse des allusions à la mythologie gréco-latine, même à l'histoire de France, qu'il s'agisse des allusions bibliques, enfin... Là, c'est un véritable feu d'artifice. D'ailleurs, lorsqu'elle est rentrée d'Afrique, ça a été pour elle un grand bonheur de pouvoir écrire ces contes qu'elle avait conçus pour Finchaton. C'était une manière de penser à lui et de penser à l'Afrique.
Cher Tommy, si je n'ai pas écrit plus tôt ce que vous trouvez sans doute étrange et que vous déplorez, c'est parce que je n'ai pu y voir clair dans aucune direction. Il ne faut pas que tu croies que, de ce fait, je sois affreusement dépressed et que je vois la situation sous un jour tragique. Il me semble au contraire que cette période difficile m'a permis de comprendre, encore mieux qu'avant, que la vie est infiniment riche et magnifique à tous égards et qu'une foule de choses pour lesquelles on s'est fait du tracas sont en fait sans importance. Chez nous, je n'arrive plus à voir cette vue d'ensemble de choses que j'ai eu bien du mal à acquérir. Quoi qu'il ait pu m'arriver et quels qu'aient pu être mes torts, il en va toujours pour moi comme il en allait auparavant. La mort me paraît préférable à une existence bourgeoise, et en mourant, je dirais mon credo en la liberté. Très sincèrement, j'ai bien de mal à voir à quoi je pourrais être bon dans la vie. Comme je te l'ai certainement déjà écrit, je me suis demandé si je pourrais pas aller apprendre la cuisine à Paris pendant un an ou deux, et ensuite trouver une place dans un restaurant ou dans un hôtel. Mais je ne sais pas au juste. Par le temps qui court, il n'y a peut-être pas tellement de places disponibles. Et puis, au cours de ce mois difficile, j'ai entrepris ce à quoi nous nous livrons, nous autres dans la famille, lorsque nous ne savons pas quoi faire d'autre. J'ai commencé à écrire un livre.
Son frère Thomas, qu'elle adorait, qui était un frère plus jeune qu'elle, c'est lui qui a récupéré cette pauvre femme à Marseille. Et il a récupéré une femme absolument brisée. Hein. Je reviens à son père, c'est pour ça que le père a énormément d'importance, ce père qui était à la fois quelqu'un de merveilleux et quelqu'un de fragile. Elle avait hérité de son père cette fragilité, cette propension à la dépression. Elle rentre en 31 et les contes gothiques sont publiés en 34. Elle ne s'est pas précipitée sur sa plume, elle a laissé dormir ses caisses. Mais enfin, elle a surtout demandé à sa mère, dont le caractère ne s'était pas arrangé, de la laisser tranquille. Et, si vous voulez, elle a accepté de revenir dans la maison de famille, mais d'y vivre une vie séparée. Et elle est restée seule avec ses caisses, avec ses souvenirs, avec ses tendances à la dépression. Et puis, au bout d'un moment, elle a compris que l'écriture était une sorte de thérapie pour elle. Que c'était la seule manière pour elle d'en sortir.
Ginette Rimbaud, psychanalyste, spécialiste de l'anorexie mentale.
Elle présente toutes les caractéristiques du plan comportemental d'abord, ce qu'elle dit elle-même de ce qu'elle ressent par rapport à la nourriture et au manger, à la faim, et plus important peut-être au niveau de sa structure familiale. D'autre part, quand on regarde ce qu'elle a écrit, on voit son désir d'aboutir à une sorte d'idéal qui soit complètement dehors de la convention dont était issue surtout sa famille du côté maternel. Cette famille était quand même absolument caractéristique des familles dans lesquelles Freud avait rencontré les jeunes filles hystériques qui ont été à la base de sa découverte de l'analyse en tant que cure de parole. Par contre, là aussi c'est assez caractéristique des jeunes femmes qui présentent ce syndrome, le côté paternel est ici peut-être plus frappant que chez d'autres, c'est-à-dire que c'est un père qui était aventureux, aventurier, et qui est mort. Et on n'a pas dit aux enfants exactement ce qu'il en était. Et en fait, cet homme s'est suicidé. Mais il faut reconnaître que ce suicide par pendaison était tout à fait honteux comme type de suicide, ne convenant pas à son idéal à lui, celui d'un officier. Alors cette mort qui a été tue, dont on n'a jamais voulu parler, c'est un élément caractéristique des jeunes filles anorexiques. Un secret qui le plus souvent tourne autour de la mort. Un deuil qui n'a pas été fait et qui est impossible à faire puisqu'on ne veut pas en parler, puisqu'on ne peut pas nommer la chose. Et ce que l'anorexique incarne d'une certaine façon, c'est un fantasme, inconscient naturellement, du côté de la mère, en particulier chez elle, qui est le mort n'est pas mort, nous le maintenons en vie. Il y a un certain nombre d'écrits où elle dit « Je sens l'esprit de mon père, je suis l'esprit de mon père ». Et c'est tout à fait frappant avec Karen, qui, de par son comportement alimentaire, qu'elle a débuté pratiquement dès la puberté, 10-12 ans, s'est exercée à dompter sa faim. Et il y a plusieurs citations de chez Karen où on voit que c'est un entraînement progressif et qu'elle mènera jusqu'au terme, c'est-à-dire qu'on lui avait demandé de ne pas aller en dessous de 35 kilos. Et à la fin de sa vie, 74 ans, ce qu'elle adorait manger, c'était donc quelques huîtres, quelques grains de raisin, une coupe de champagne. Pour elle, tout ce qui est prendre du poids, prendre de la nourriture, c'est incorporer du déchet, quelque chose qui est inutile, de la graisse, enfin c'est quelque chose qui va les priver de leurs moyens. Mais leurs moyens, ce sont des moyens, disons, spirituels. C'est-à-dire que tout va passer du côté de la création, quand elles en ont la capacité, comme Karen l'a développé plus tard, ou comme par exemple Simone Veil ou d'autres l'ont fait, et des moyens qui sont de protester contre le type de vie qu'on voudrait leur faire mener. Et Karen dit « Ce n'est pas de la nourriture que je veux, c'est des paroles et des réponses. » Sa vie, on pourrait la considérer comme une succession de pertes, la première perte ayant été celle de son père, qu'elle revit à chaque instant. Très souvent, elle reparle de cette perte. Elle a perdu son amant, elle a perdu sa ferme, et finalement, tout pour elle prenait la forme d'une perte. On peut très bien imaginer que Karen Blixen avait trouvé une certaine réponse quand elle vivait en Afrique, dans cette ferme. Elle avait trouvé effectivement quelque chose qui lui disait qu'elle pouvait naviguer et vivre en même temps. Elle pouvait naviguer dans un milieu qui était un peu celui que son père lui avait appris à aimer. Parce qu'il faut bien reconnaître que les écrits de Karen sont des années après sa vie en Afrique et qu'elle les a d'une certaine façon sublimées. C'est une façon pour elle, à ce moment-là, de reconnaître que le changement de milieu lui a donné la possibilité de s'engager dans une vie qu'elle considérait hors du commun. Et c'est dire au monde, vous n'avez pas compris ce que je demande et ce que je désire. Ce que je veux, c'est une réponse.
Vous n'avez pas établi de rapport entre Karen Blixen, auteur de La ferme africaine, et cet Isaac Dinesen, mystérieux, qui avait écrit les sept contes gothiques. Et c'est là où j'ai appris l'amour de Karen Blixen pour les pseudonymes d'abord, et particulièrement pour les pseudonymes masculins, ce qui est très étrange de la part d'une femme aussi féminine qu'elle. Isaac Dinesen en est un, et puis il y a également Pierre Andrézel.
Sur lequel elle a publié le seul roman d'ailleurs qu'elle ait écrit, qui était Les Voies de la Vengeance.
La mythologie scandinave ancienne,
Régis Boyer,
ne distingue pas tellement les sexes. C'est-à-dire, il y a des dieux qui sont tantôt des hommes et tantôt des femmes, ou bien il y a des dieux qui sont donnés ici pour des hommes et là pour des femmes, ou des déesses qui portent des noms masculins, ou des personnages qui sont, selon qu'on les écrit grammaticalement, c'est une affaire
de langue.
Oui, tout à fait. Vous pouvez les concevoir au masculin ou au féminin. À mon avis, tout ça vient de ce que les Scandinaves, comme beaucoup de nos cultures d'ailleurs, ont dû révérer, premièrement, à un stade très reculé, la grande déesse, ou la terre-mère, ou la déesse-mère. Comme toujours chez les Scandinaves, c'est resté plus net chez eux que dans d'autres cultures avoisinante. Alors, comme vous le savez, du thème de la déesse mère découle d'une part le thème des jumeaux divins, des Dioscures, style Castor et Pollux, style Freyr et Freya chez les Scandinaves, et aussi le personnage de l'androgyne, ça revient au même. Alors, en effet, il est remarquable que ce soit surtout chez les Scandinaves, à l'époque moderne, que l'on trouve des romanciers qui vous fabriquent des personnages centraux, qui sont soit hommes, soit femmes, soit les deux en même temps, et les pseudonymes de Isaac Dinesen rentre justement dans cette catégorie-là.
Isaac, qui veut dire celui qui rit en hébreu, paraît-il, et c'est un clin d'œil aux indigènes qui étaient avec elle pendant tout ce séjour africain et qui étaient rieurs en dépit des difficultés de la vie. Et puis Dinesen, eh bien, c'est son nom, le nom de son père, c'est son nom de jeune fille, si vous voulez. Alors Isaac Dinesen. Autant dire que les critiques ont vite fait de décrypter ce nom et de découvrir la baronne Blixen. « Non à ton visage, mais à ton masque, je te connaîtrai », fait-elle dire à l'un de ses personnages. Elle adore la comédie, elle adore justement fuir derrière ces masques, derrière ces apparences trompeuses. Est-ce qu'elles sont vraiment trompeuses? Elles révèlent quelque chose, si vous voulez. Alors, elle écrit directement en anglais, parce qu'elle était complètement bilingue, et elle, naturellement, échangeait ses pensées en anglais avec Fitchaton, d'ailleurs, comme avec tous les membres de la colonie anglaise. Et elle a écrit ses contes gothiques. Ils ont été publiés en Angleterre. Elle a tout de suite obtenu une formidable réputation dans les pays anglo-saxons avant d'être vraiment reconnue au Danemark. Et elle a obtenu ce qui correspond à notre prix Goncourt. Elle a obtenu en 1934. Et à cause de cela, tout de suite, elle a été lue naturellement en Angleterre et puis dans tous les pays de langue anglaise, aux États-Unis et partout.
Voilà. Et donc à partir de ce retour au Danemark jusqu'à la fin de sa vie, en 1962, elle se consacre complètement à l'écriture avec des phases plus ou moins productives.
Cette syphilis qu'elle croyait avoir guérie n'était pas guérie et s'est réveillée sous forme d'une maladie osseuse dans la moelle épinière et qui l'a fait infiniment souffrir et ce qui a ralenti sa production littéraire. C'est ce qui explique qu'elle ait écrit relativement peu de livres pendant une dizaine d'années, notamment entre 47 et 56, 7. Elle a écrit des petites choses, mais elle a arraché cette œuvre superbe à vraiment une souffrance intense. On a l'impression qu'elle se prenait en main et que l'écriture l'aidait à oublier ses souffrances physiques et morales, car elle a énormément souffert de ne pas avoir d'enfant et ça a été pour elle une très très grosse déception, un très grand chagrin dans sa vie.
Nu slukkedes et herligt lys fra himlen højt en stjerne styrtede. Sådan var det. Hendes død var en stor ulykke og sorg for hele verden. Ak, så bedrøvelig, så bedrøvelig. Nu må du hjælpe mig at fortælle verden om hendes død. Du må se Pellegrinas grav gravet og sætte en sten på den. Sæt ikke nogen stor, skøn statue over hende, som den, du ville have sat, hvis jeg var død, inden jeg mistede min stemme. Nej, slet ikke sådan. Men dog en marmorsten med hendes navn og fødsels- og dødsår. Sæt også en lille kort indskrift på den. Denne Markus.
Karl Eschby Poulsen.
Torkild Bjørnvig har écrit un livre sur son amitié avec Karen Blixen, qui est beaucoup plus qu'une amitié. Lui emploie le mot séduction productive. Le pacte consistait à ce qu'elle lui dise. Elle a fait comme Elias a fait à Elisa. Il a mis sa cape autour de ses épaules en disant ceci en signe que les deux tiers de mon esprit restera chez vous après ma mort. Mais elle a fait beaucoup plus avec Torkild Bjørnvig. Il veut dire que c'était lui. Il y a un autre qui est un éminent critique littéraire qui s'appelle Ove Henriksen, qui a été un très bon ami aussi. C'était tous les deux deux jeunes intellectuels qui se cherchaient, dont, pour ainsi dire, les idées n'étaient pas encore solidifiées. Et Karen Blixen a, pour ainsi dire, complètement bouleversé, a percé le système de défense qu'on a normalement, de sorte que c'était une séduction sexuelle, mais à un niveau extrêmement sublimé. Et tous les deux ont subi les séquelles. Bjørnvig a rompu le pacte, Ove Henriksen a dû s'en sortir lui-même, mais en s'en sortant, par le biais de comprendre Karen Blixen, et en suivant cette voie, il est arrivé à écrire une œuvre de critique littéraire qui est inégalée dans les pays scandinaves. Dans les deux cas, en ce qui concerne la poésie pour Torkild Bjørnvig, en ce qui concerne la critique littéraire pour Ove Henriksen, la tradition a été complètement renouvelée. Il faisait partie d'un groupe de jeunes poètes et critiques littéraires qui s'étaient regroupés autour d'une revue qui s'appelait Heretica. Et ils étaient un petit peu à la recherche d'écrivains, de penseurs, qui représentaient un univers autonome et authentique dans ce sens qu'il ne reposait que sur le seul vécu. Et ils découvrirent donc au Danemark Karen Blixen. Elle s'est toujours sentie, non pas à la marge de la littérature danoise, mais un peu en dehors. Il faut voir quand même que quand elle a débuté dans les années 30, la critique n'était pas unanimement positive. C'était la période du réalisme social, assez gris, assez terne. Et il y avait un critique qui s'appelait Frédéric Schubert qui a écrit un article sur les sept contes gothiques où il avait dit que c'était du 6 milliards et que ça a été écrit par un écrivain qui certes avait du talent mais qui surtout était un maniéré. Le premier succès est venu à l'extérieur. C'est peut-être ça qui est un peu le problème puisque personne n'est prophète dans son propre pays. Donc du fait que le succès est venue, qu'elle a été découverte ailleurs, elle a, pour ainsi dire, été importée au Danemark. Enfin, elle s'est importée elle-même, puisque c'est elle qui a retraduit entièrement son propre livre. Mais c'est un fait que les thèmes, sa façon d'écrire, les milieux, étaient vraiment... c'était perçu comme quelque chose de complètement à part. Et il est vrai que quand on lit Karen Blixen, c'est... À la lire, c'est pastiche sur pastiche, je veux dire, c'est langage sur langage sur langage. On pourrait presque aller jusqu'à dire que c'est toute une série de citations, pour dire une intertextualité mise en scène. Le premier critique, donc, Schubert, n'a vu que ça. Vient donc ce groupe de jeunes. Donc évidemment, elle était très flattée. tout d'un coup se trouver devant une série de jeunes poètes dont ils étaient aussi universitaires. C'était vraiment très très prometteur, qui en plus voulait qu'elle écrive dans leur revue. Elle voulait aussi, elle, que la revue soit une plateforme pour ses idées à elle, alors que les jeunes ne pensaient pas du tout que ça devait être comme ça.
Se, sagde hun, jeg har ventet på dette for at forklare dig alt. Det er lettere for dig at forstå, når du har set det. Se, der går en kvinde ud til sit arbejde i markerne. Måske er hun bondekone, måske hun hedder Maria. Hun er glad nu til morgen, for hendes mand har været god imod hende og har givet hende et koralhalsbånd.
Eller måske er hun... Les sept contes gothiques contiennent deux ou trois des meilleures choses que Karen Blixen ait écrites.
Marcel Schneider.
En particulier lorsqu'il y a cette espèce de déluge et où les personnes réunies dans un endroit qui est menacé par les eaux se racontent des histoires pour se réconforter et pour passer, en attendant qu'on vienne les délivrer, n'est-ce pas ? Alors, c'est à la fois historique, enfin, ça se passe généralement au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ces contes, mais avec une atmosphère tout à fait légendaire, de sorte que c'est pour cela qu'on a à la fois un pied dans le vécu historique et un pied dans l'imaginaire pur. D'ailleurs, il y a là, parmi les personnes menacées par les flots, une vieille demoiselle qui s'appelle Mademoiselle Natodag, c'est-à-dire Nuit et Jour, et qui est une projection de son propre personnage, n'est-ce pas, qui est une vieille demoiselle tout à fait désinvolte et étrange. Je vous dis que les uns trouvent un peu folle et que les autres trouvent simplement d'une excentricité extrême, et qui est un personnage tout à fait vivant, haut en couleur, et qui exprime bien l'âme tourmentée et le personnage tourmenté qu'était Karen Blixen. Ce n'était pas du tout une personne vivant dans la tour d'ivoire. Et le personnage de cette demoiselle Nuit et Jour exprime très bien, je crois, son ego intime. Elle compte, et c'est par le détour, si vous voulez, du récit, des événements, des surprises, des catastrophes quelquefois, etc., que l'on se fait une idée de la psychologie des personnages. Elle ne décrit pas des personnages par l'intérieur, mais par le biais de l'illusion romantique. Alors ça, c'est un de ses traits de caractère, et c'est pour cela qu'on l'appelle la Scheherazade du Nord.
Syv fantastiske fortællinger. Et familieselskab i Helsingør. På et gadehjørne i Helsingør, nær ved havnen, står et værdigt gammelt gråt hus, som er bygget i begyndelsen af det 18. århundrede, og som nu med forbehold ser på de nye tider, som er vokset op omkring det.
I årenes løb er det blevet arbejdet sammen til en soirée del sonneur.
Når forstuedøren bliver lukket op på en dag med nord-nordvest,
à un coin de rue, près du port d'Elseneur, s'élève une vieille et majestueuse maison grise. Bâtie au commencement du XVIIIe siècle, elle considère sans bienveillance l'époque nouvelle qui a grandi autour d'elle. Au cours des années, elle s'est transformée en un ensemble si parfait que par vent du nord-nord-ouest, si on ouvre la porte d'entrée, une porte du corridor de l'étage s'ouvre de connivence. De même, lorsque l'on pose le pied sur une des marches du large escalier, une lame du parquet gémit dans le salon en faible écho, telle une chanson. La famille de Coninck, qui possédait la maison, l'avait habitée fort longtemps. Mais après la banqueroute d'État de 1813 et de tragiques événements dans la famille même, elle alla s'installer à Copenhague. Secondée par un jeune homme, une vieille femme à bonnet tuyauté la gardait à présent, et tandis qu'elle vivait dans la vieille demeure, c'était toujours le passé qui occupait son esprit. Elle ne parlait guère d'autre chose. Les deux filles de la maison ne s'étaient jamais mariées et étaient trop âgées pour y penser maintenant. Le fils unique était mort, mais autrefois racontait Dame Beck les dimanches d'été Le père, la mère et les trois enfants se rendaient à la maison de campagne de la grand-mère, où, suivant la coutume du temps, l'on dînait à 3 heures. S'il faisait vraiment beau, la table était mise sur la pelouse, sous un grand orme, qui en juin semait ses petites fleurs cireuses et parfumées dans l'herbe autour de la table. On se régalait de canards aux petits pois et de framboises à la crème. Et le garçonnet en culotte de nankin blanc s'amusait avec les petits chiens bolonnés de sa grand-mère. Les deux jeunes sœurs avaient dans leur chambre de grandes volières d'oiseaux des îles, offertes par leurs admirateurs au retour de voyage.
I hvide nankinsbukser frem og tilbage og fodrede sin bedstemors små bologneser hunde.
34 Les Contes Gothiques, Gothic Tales, Out of Africa, qui est le récit merveilleusement agencé de son séjour africain, et qui a été publié en 37. Et puis ensuite, elle a publié Les Contes d'hiver en 42. Elle publiera Les Nouveaux Contes d'hiver en 57. Et puis également un livre qui s'appelle plus tard Ombre sur la prairie, qui est encore un livre qui complète Out of Africa, qui est un livre également sur son séjour africain. Et puis entre les deux, elle publiera une série de contes, si vous voulez, qu'il s'agisse du dîner de Babette, qu'il s'agisse des chevaux fantômes, qu'il s'agisse d'un certain nombre de nouvelles comme ça, qui sont publiées au fil des années 50-52. J'ajoute ce merveilleux livre qui s'appelle Les Fils de Rois, qui ont été publiés après sa mort et qui reprennent pour les trois quarts, parce que certains sont des contes plus tardifs, mais qui reprennent des contes de jeunesse, des contes qu'elle a écrits lorsqu'elle avait 22-23 ans. Et beaucoup de ces contes ont été d'abord lus à la radio danoise. Ils sont au carrefour de trois cultures.
La culture judéo-chrétienne, la culture gréco-latine et la culture scandinave.
Très souvent, chacune de ces nouvelles en comporte plusieurs. Elle raconte son histoire et à l'intérieur de l'histoire, elle raconte une autre histoire et puis elle revient à la première histoire. Elle vous entraîne dans des digressions, c'est comme si vous étiez dans une forêt, vous êtes dans le chemin principal et puis subitement vous bifurquez dans un sentier, puis vous revenez au chemin principal. Et comme ça, elle vous fait partir dans plusieurs sentiers avant d'arriver à la fin. Et les nouvelles fourmis d'allusions à la mythologie gréco-latine, à la Bible, etc. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle a suffisamment d'humour pour tordre le cou, même à la Bible. Elle utilise des formules bibliques, mais en les détournant quelquefois de leur but, et elle les utilise à sa façon, avec énormément de liberté. Et puis, c'est une facétieuse, c'est une femme pleine d'humour. Vous avez tout un panthéisme triomphant qui n'a rien à voir avec l'orthodoxie chrétienne. Dieu est partout, Dieu est dans les arbres, c'est un peu l'interprétation des indigènes qui voient la divinité dans tous les aspects de la nature. Et cela, si vous voulez, c'est lié directement à son père, à ses promenades qu'elle faisait dans ce merveilleux parc de Rungstedlude. Et puis, troisième élément, en dehors de ce panthéisme triomphant, il y a tout un aspect tellurique. Et là, on rejoint les sagas scandinaves. Elle essaye de nous expliquer à travers ces histoires qui ne parlent que de vie, de mort, de destin, que le destin des hommes n'est pas uniquement influencé par Dieu. Et là, elle bifurque nettement de l'orthodoxie chrétienne et que bien souvent nos destinées sont influencées par ce qu'elle appelle des forces telluriques que vous pourriez appeler le diable, je ne sais pas. Mais très souvent, nos parcours basculent pour un rien, pour une impression, pour un paysage qui fait une impression très forte sur vous. Et à ce moment-là, vous partez dans telle ou telle direction, vous faites tel ou tel choix. Elle balance tous ces thèmes avec un humour décapant et elle vous ramène, mine de rien, à tous les grands problèmes. Mais tout cela avec, soit avec le sourire, soit avec un merveilleux sens de l'humour. Et ces contes sont à la fois d'une profondeur extraordinaire et en même temps d'une légèreté. Ils se boivent comme une coupe de champagne, ils vous montent à la tête et ils vous apprennent beaucoup. Et puisque j'utilise cette image du champagne, je trouve qu'ils vous mettent dans une sorte d'effervescence métaphysique assez extraordinaire.
Oui. Je crois à l'immortalité de l'âme, continua-t-il, et peut-être la vie éternelle de l'esprit est-elle la seule réalité authentique. Je ne le sais pas encore, mais je le saurai demain.
Je vous ai dit qu'elle était sujette aux dépressions et elle, Ces héros sont des gens qui sont au bout, enfin la plupart d'entre eux, certains contes sont plus légers, mais tout de même la plupart d'entre eux mettent en scène des héros qui sont un peu au bout d'eux-mêmes, qui sont atteints ce que l'on pourrait appeler du mal de vivre, et le mal de vivre c'est bien un mal de notre époque, de cette fin de siècle. Et ces gens qui sont au bout d'eux-mêmes, qui sont en état de fracture psychologique. Je pourrais vous donner quelques exemples. Ce peut être un poète qui est en panne d'inspiration. Il a écrit un premier livre et puis il est incapable d'en écrire un second. Alors il panique, il déprime, entre guillemets. Et puis il y a une diva, une sorte de calasse en son temps qui, elle, par suite d'un accident, a perdu la voix. Elle ne peut plus chanter, sa carrière est brisée, elle est au bord du suicide. Là aussi, il y a de quoi se sentir mal à l'aise. Sur cette planète, il n'y a pas que des êtres en mal de vivre, il y a en face d'eux ce qu'elle appelle des êtres de lumière, des diseurs de vérité, des êtres qui ne sont pas forcément des gens haut placés dans la hiérarchie sociale. Ce sont quelquefois des prêtres d'ailleurs, des jésuites, il y a quelquefois un cardinal. Là, c'est un personnage considérable. Mais il y a aussi des bohémiens, il y a un vieux montreur de marionnettes, il y a des marins, des gens très simples, des gens qui ont souffert et qui vont transmettre leur savoir de cette vie à ces héros en mal de vivre et qui vont petit à petit les tirer vers le haut et les remettre dans le flot de la vie. Et qui, à travers eux, ils vont retrouver la joie de vivre. Et si vous voulez, c'est cette espèce de dialogue entre ces êtres fragiles et ces êtres que la vie a rendus plus forts, parce qu'ils ont réussi à transcender leur souffrance, à en faire une espèce de palier pour mieux se connaître eux-mêmes et puis également se tourner vers les autres pour les aider à progresser.
Il semble bien que la mythologie scandinave n'ait pas été fondamentalement et originellement organisée dans des panthéons tout à fait rationnels et qui ressemblent comme des frères au panthéon latin ou au panthéon grec, comme nous le croyons. Il semble que, si on monte très très loin en avant dans le temps, la première divinité scandinave qui ait été fondamentale, ce soit le destin. Et vous savez qu'elle a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle « Anecdotes du destin », elle. Et il semble que, comme tout Scandinave qui se respecte et qui est fidèle à ses racines immémoriales, elle est beaucoup traitée du destin parce qu'elle est dans le droit fil de la vraie réalité scandinave ontologique, je dirais. Nous sommes dans des pays à tradition luthérienne. Tradition luthérienne sourcilleuse, avec accent sur le piétisme. Vous avez entendu parler des frères moraves ou du herrnhutisme, c'est-à-dire des gens pour qui la religion tient d'abord aux actes que vous posez, donc à la pratique, avec un accent fortement mis sur la morale, jugée aux actes, des tout petits milieux très clos, où le regard d'autrui pèse sur vous comme un couvercle, où l'opinion que vous pouvez avoir de vous-même passe par l'appréciation d'autrui. Des milieux étouffants, bornés, mesquins, contre lesquels des gens comme Ibsen, par exemple, le Norvégien, ou Strindberg, le Suédois, ont écrit des choses atroces. Kierkegaard est le premier à s'être violemment dressé contre cette atmosphère. C'est difficile à imaginer parce que nous autres méditerranéens ou français, nous concevons mal ce type de religion réduite à la morale et morale qui passe par le consentement du regard d'autrui. On voit très bien dans le livre de Karen Blixen l'espèce de poids, de contrainte, de tyrannie qu'exerce ce type de représentation sur une petite jeune fille qui sort d'un milieu très aristocratique, qui a un tempérament irréductible à la norme et qui fait ce qu'elle peut, qui est obligée de se défendre de tous les côtés contre la contrainte ambiante. Tous les grands écrivains scandinaves depuis 120 ans, tous, je ne vois pas d'exception, ont écrit le meilleur de leur œuvre à l'étranger. Le cas clé étant celui d'Ibsen qui a passé 27 ans de sa vie à l'étranger. Alors, ne prenez pas ça exactement pour une fuite, mais comme une impossibilité de s'exprimer en tant que tel si on reste sur place, à cause de la pression du milieu. Il faut qu'il s'en aille. Alors elle a choisi la fuite dans le Kenya, dans la plantation de café. Mais de toute façon, je crois qu'elle aurait été composée son œuvre ailleurs qu'au Danemark, qui pourtant est de loin le moins fermé de tous des pays scandinaves. Mais c'est ainsi. Et ça dure. Les grands écrivains scandinaves actuels, 1992, pour la plupart, sinon vivent à l'étranger, ont en tout cas un pied-à-terre où ils passent une bonne partie de leur temps à l'étranger.
La vieille dame commença ainsi. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire vraie qui s'est déroulée il y a un siècle et demi. En plus de temps que nous ne saurions lui consacrer, vous et moi, et avec une foule de détails que nous ne pourrons jamais reconstituer. En effet, les hommes et les femmes qui en furent les protagonistes et qui attachèrent une importance capitale aux événements que je vais vous relater se sont évanouis depuis bien longtemps. À l'heure qu'il est, au ciel, devant notre doux Seigneur Jésus, ils échangent peut-être une remarque ou un sourire. Alors, vous rappelez-vous? Les routes et les chemins qu'ils ont suivis sont maintenant enfouis sous l'herbe et certains d'entre eux ont complètement disparu. Les chevaux fantômes et autres contes, Erengard.
L'impression que je voudrais que vous gardiez de Karen Blixen, mais évidemment on la trahit obligatoirement quand on la traduit, comme tous les grands écrivains, c'est quand même que c'est une styliste extraordinaire.
Elle nous arrache à l'oubli de l'être, et si vous voulez, en fait, dans ce dialogue entre gens angoissés et êtres de lumière, il y a tout le message, naturellement, qu'elle veut faire passer, mine de rien, entre guillemets, encore une fois, elle ne sermonne pas. Et on peut dire qu'à travers toutes ces nouvelles, il y a tous les grands thèmes chrétiens qui sont là, mais redéfinis à la manière blixénienne, avec cette touche absolument inimitable. Alors, il y a aussi bien le thème de la vie éternelle, le thème de la rémission des péchés, le thème de la compassion nécessaire, de l'amour du prochain. Et tout ça passe très bien, parce que, encore une fois, il y a cette touche d'humour.
L'avait dit à Thorkild Bjørnvig à un moment donné, écrivez, non pas pour le public, non pas pour vous-même, mais écrivez parce que vous devez une réponse au Dieu.
Så kan man tale til uendelig mange flere tilhører, end det gamle der, du skal gøre at tale til. Mange flere gør bekendtskab med ens historier, end de gør gennem en bog. En bog selv den bedste taler. Hvis den bliver solgt i 100.000 eksemplarer, så er det mange. Men da jeg talte i Amerika, fortalte de mig, at der var 105 millioner televisionapparater i Amerika. Nu kunne jeg jo ganske vist ikke vente, at de alle sammen skulle stille ind på mig. Men det kunne dog tænkes, at 1 million eller 2 gjorde det. Og det er en ganske mærkelig følelse, at man taler om 4 millioner.
C'était Karen Blixen, une âme en quête de grandeur. Avec Micheline Lalou, Karl H.B. Poulsen, Marcel Schneider, Régis Boyer, Jacqueline Rumeger-Eberhardt, Ginette Rimbaud. Texte dit par Claude Dominique, Marie-Thérèse Bering, Nicolas Dorigny-Lebecker. Équipe de réalisation, Agnès Varnier, Mireille François. Une émission de Bénédicte Niogret et Annie Flavel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 février 1993.